France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnay. $219 millions de consommateurs de cannabis dans le monde, selon l'ONU. Après des décennies d'interdiction, plusieurs États ont récemment choisi la dépénalisation, voire la légalisation, mais avec des logiques différentes et des effets différents. Nous parlerons demain de l'Uruguay, où l'État garde le contrôle. Mercredi, des Pays-Bas, où les dilemmes de la dépénalisation sont plus nombreux qu'on ne le croit. Jeudi, du Maroc, la nouvelle autoroute du kiff. Premier épisode aujourd'hui, aux États-Unis, l'essor du cannabis.
Le cannabis est resté le même pendant 8000 ans. Il a connu très peu de changements durant tous ces millénaires. Puis il s'est retrouvé confronté à l'ingéniosité américaine. Et depuis, plus rien ne sera jamais comme avant.
Avec la légalisation, nous avons augmenté les recettes fiscales grâce aux taxes sur la consommation à usage récréatif. L'industrie du cannabis pèse aujourd'hui plus d'un milliard de dollars au Colorado.
Comme je l'ai toujours dit, personne ne devrait être condamné à des peines de prison pour des histoires de possession de marijuana. Le cannabis est déjà légal dans beaucoup d'États, et ces réformes ont permis à des milliers de personnes qui avaient été condamnées de retrouver un casier judiciaire vierge et de retrouver un emploi, un logement, de saisir de nouvelles opportunités.
Ce discours de Joe Biden l'année dernière ne concernait pas, on s'en doute, le patron de ce qui était encore Twitter à l'époque, Elon Musk, en 2018, tirant sur un énorme joint pendant une émission de 2 heures animée par Joe Rogan autour d'un verre de whisky. Alors on ne sait pas ce que le milliardaire avait pris d'autre, une enquête du Wall Street Journal le dit très dépendant à des drogues beaucoup plus dures. Elon Musk, qui présidait encore il y a peu aux destinées de l'administration publique états-unienne, se réveille souvent la nuit parce que quelqu'un lui serre la main et ce n'est que son autre main, pour reprendre les mots de William Burroughs dans son livre de 59, Le Festin Nu. En tant que consommateur, Elon Musk n'était pas dans l'illégalité en fumant de l'herbe en Californie, État qui a légalisé le cannabis, comme près de la moitié des États fédérés américains depuis 2014. En revanche, il l'était en le faisant devant des milliers de personnes, car la consommation comme la production ou la distribution sont censées être strictement encadrées, un peu comme pour l'alcool en France avec la loi Evin. Les arguments présentés au départ sont louables, mieux contrôlés, contrôler la qualité du cannabis et son dosage pour éviter les bad trips, sortir les populations les plus défavorisées, bien souvent afro-américaines, des radars de la police et de la justice, couper l'herbe sous le pied, pardon pour le mauvais jeu de mots, au crime organisé. Mais la légalisation est dans les faits devenue une affaire de gros sous. Le cannabis génère aujourd'hui 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On parle de Big Marijuana comme on parle de Big Pharma, alors même que l'État fédéral, lui, n'a rien légalisé du tout. Bonjour Ivana Obradovic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT. Vous avez écrit Le cannabis aux éditions La Découverte il y a maintenant 3 ans et co-écrit une note l'année dernière sur la légalisation du cannabis aux États-Unis en particulier. Alors quand ce débat a-t-il commencé aux États-Unis, dans un pays qui fut jadis chantre de la prohibition de l'alcool et dont les valeurs sont toujours à mains égards, disons, puritaine.
Alors ce débat, il a commencé dans les années 70 avec de premières initiatives de légalisation du cannabis à usage médical, considérant que la légalisation de l'usage dit récréatif était prématurée et ne passerait pas auprès de l'opinion publique. Donc la Californie a été un des premiers États aux États-Unis à légaliser le cannabis à usage médical, ce qui a ouvert la voie à un mouvement de réforme dans d'autres États. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine sur 50 qui ont légalisé le cannabis à usage médical avec le développement de ce qu'on a appelé un marché gris, C'est-à-dire que les dispensaires qui étaient censés délivrer ce cannabis médical ne délivraient pas forcément du cannabis qui était contrôlé, dont la production était strictement encadrée et contrôlée. Et par ailleurs, il y avait un afflux de consommateurs dits récréatifs sur ce marché du cannabis médical.
Qui réussissaient à se faire prescrire du cannabis pour peu qu'ils connaissent un thérapeute, un médecin peu scrupuleux, il réussissait à avoir une ordonnance assez facilement. Donc de toute façon, il fallait faire quelque chose.
Fallait faire quelque chose et c'était une des motivations à légaliser justement le cannabis à usage récréatif, sachant que justement, dans ce cadre du cannabis médical, c'était pas forcément une prescription médicale, ça pouvait être prescrit par un tiers. Donc voilà. Libre interprétation,
oui, libre interprétation de qui peut être le tiers. On est là dans les années 70, à une époque où d'abord les États-Unis sont une des grandes puissances motrices des grandes conventions internationales de lutte contre le trafic de drogue, et aussi à l'époque où Nixon, le président Nixon, a déclaré mener une guerre contre la drogue. Ce sont vraiment des États fédérés qui prennent l'initiative, qui s'octroient ce droit-là de légaliser le cannabis médical, mais ça ne se fait pas sans heurts.
Alors tout à fait, ça a été une surprise, notamment au Colorado, qui a été un des deux premiers États à légaliser le cannabis en 2012 par la voie d'un référendum. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que ce référendum soit approuvé. Donc c'était à la surprise générale. Et en même temps, toujours en novembre 2012, l'État de Washington a aussi voté par référendum.
Là, vous n'êtes plus dans les années 70. Là, je vous parle toujours des années 70.
Oui, d'accord.
On est à une époque où Nixon déclarait la guerre contre la drogue et en même temps, des États fédérés qui prennent cette initiative-là.
Absolument. Et cette guerre contre la drogue qui a été ouverte en 71 par le grand discours de Nixon, elle a donné lieu à des interpellations très importantes pour possession, y compris de petites quantités de cannabis, avec des millions d'Américains même incarcérés pour des délits plus ou moins mineurs liés à la drogue, en particulier au cannabis. Et donc ça a amené les organisations militantes pour une réforme du cannabis, mais aussi des associations pour la défense des libertés individuelles, comme l'ACLU, par exemple, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est une des plus grandes associations américaines qui œuvre depuis plus d'un siècle pour défendre de façon assez inconditionnelle le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Et cette association, elle s'est mobilisée sur le combat pour la légalisation du cannabis, pour lutter contre les disparités raciales, sociales et raciales dans les interpellations liées à la drogue.
Parce qu'à l'origine, ce sont vraiment elles, ces associations-là, qui se battent pour que soit légalisé le cannabis médical, ou il y a d'autres structures. Est-ce que ça ne vient que de la société civile, ce mouvement-là de dépénalisation d'abord dans les années 70 ?
Alors si ça n'avait été porté que par la société civile, ça aurait probablement été un échec. C'est la combinaison de trois facteurs. Donc il y a effectivement toute cette constellation d'associations militantes, chapeautées par l'ACLU, mais également une puissance financière importante avec des milliardaires qui se sont investis dans cette lutte-là. Par exemple, George Soros, qui a abondamment financé les campagnes d'opinion pour la légalisation du cannabis. Et puis également des acteurs économiques, des entreprises évidemment qui étaient dans les starting blocks pour participer à ce marché, mais aussi ce qu'on appelle le legacy market aux États-Unis, pour parler bon américain, qui est constitué par tous les cultivateurs locaux de cannabis qui depuis des décennies cultivent en Californie. On a fait une enquête de terrain avec ma collègue Anne-France Teclet il y a 2 ans, et on a interrogé une partie de ces cultivateurs qui considèrent avoir le meilleur cannabis du monde en Californie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et donc, y compris des petits acteurs locaux étaient intéressés par cette légalisation.
Donc il y a déjà un savoir-faire qui existe, une expertise portée notamment par les cannabiculteurs, comme on les appelle traditionnels, en Californie, où le cannabis était déjà érigé en produit haut de gamme.
This is the land I was born and raised on.
Cette terre m'a vu naître et m'a vu grandir. Au tout début, c'était vraiment difficile. Il fallait acheminer l'eau depuis la ville. Personne n'avait d'argent. L'un des voisins a emmené mon grand-père voir l'herbe magique qui poussait dans les bois. Il a compris que le terrain avait du potentiel. Cette terre, c'est toute ma vie. J'y ai passé tout mon temps, sauf quand je suis parti étudier à l'université. À mon retour, c'est devenu ma ferme. Et aujourd'hui, c'est devenu mon gagne-pain, mon bureau, ma réalité. Pouvoir cultiver de la marijuana sur le terrain où je suis né, c'est quelque chose de très fort pour moi.
Extrait d'un reportage de Vice qui date de l'année dernière. Alors on parlera tout à l'heure en focus du triangle d'émeraude, comme on l'appelle. C'est une région qui est au nord de San Francisco, qui concentre la production de cannabis en Californie et qui est aujourd'hui un peu bousculée par l'arrivée de géants, entreprises géantes du cannabis. D'abord des années 70 aux années 2010, les états pionniers dont vous nous parlez, la Californie, mais aussi l'Oregon, l'État de Washington, le Nebraska, donc plutôt des États de l'Ouest, se sont vus emboîter le pas donc par d'autres États qui, près de 40 ans plus tard, ont profité d'avoir affûté aussi leurs arguments, très certainement, que ce soit ce que vous disiez tout à l'heure, les inégalités raciales, le fait que beaucoup d'Africains noirs sont arrêtés pour détention de cannabis, des questions sanitaires également. 2008 aussi, l'élection de Barack Obama qui crée un contexte favorable avec une circulaire adressée au procureur pour déprioriser la lutte contre le marché du cannabis médical dès lors que les États qui l'ont légalisé prouvent qu'ils font des efforts pour l'encadrer. Mais est-ce que c'est le cas, Ivana Obradovic, dans les États du Colorado ou de Washington par exemple, que vous avez particulièrement étudié? Est-ce que le marché du cannabis médical est encadré dès le départ?
Alors, le marché du cannabis médical, non. Et c'était justement une des motivations pour réformer l'ensemble du marché du cannabis, ce qu'on appelle full legalization, c'est-à-dire l'idée d'ouvrir la voie à des acteurs privés qui peuvent investir un secteur légal du cannabis, mais d'encadrer ce secteur économique nouveau.
Pour éviter le marché gris dont vous nous parliez tout à l'heure.
Exactement, et l'encadrer de la même manière qu'on encadre le tabac ou l'alcool.
À Washington, dans l'État de Washington, par exemple, il n'y a même pas de registre des patients bénéficiaires. Et il n'y a pas non plus, je crois, de limite du cannabis autorisé pour des fins médicales.
Alors c'est ça, il y a des régimes extrêmement différenciés d'accès au cannabis médical. Tout comme on a aujourd'hui des régimes de régulation très différenciés du cannabis dans la moitié des États américains qui ont aujourd'hui fait cette full legalization, c'est-à-dire l'ensemble du secteur du cannabis, médical ou dit récréatif.
Lesquels? Alors, quels États rouvrent la marche de cette, non plus dépénalisation, mais légalisation dans les années 70? Dans les années, pardon, 2018.
Alors, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu d'abord des États de l'Ouest américain, donc le Colorado et l'État de Washington ont été les premiers, avant quelques autres, dont notamment la Californie et l'Oregon, donc la Pacific Coast. En parallèle, ensuite, quelques États du Midwest s'y sont mis, en même temps que des États du Nord-Est, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre et New York. Donc ça a été plus récent. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les vagues, la pondération des objectifs de la légalisation a été un petit peu différente. Au début, il y avait vraiment l'idée d'assécher le marché noir et de garantir l'accès un cannabis contrôlé aux adultes qui consomment. Donc des raisons de santé publique, des raisons de lutte contre la criminalité organisée et aussi, accessoirement, le développement économique et les recettes fiscales dans un contexte de déficit public dans tous ces États.
Est-ce que ça, par exemple, c'est l'argument mobilisé? Vous nous parlez de George Soros, la fondation de George Soros. Pourquoi ce milliardaire est-il d'emblée très impliqué dans ces campagnes pour la légalisation du cannabis? Est-ce que ce sont vraiment les arguments économiques qu'il met en avant, lui, à ce moment-là?
Alors, c'est des arguments philanthropiques, de liberté individuelle, mais évidemment aussi avec la perspective d'opportunités économiques pour des acteurs privés, puisque c'est vraiment ce modèle-là, business friendly, qui prévaut aux États-Unis, par opposition à l'Uruguay dont vous parlerez demain, où c'est vraiment l'inverse, on est quasiment dans un monopole d'État. Donc voilà, suivant les vagues de légalisation, les motivations de réforme n'ont pas été tout à fait les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où New York et les États de la Nouvelle-Angleterre s'y sont mis, il y a eu une nouvelle motivation de réforme qui a été avancée, qui était de réparer les injustices liées à la guerre à la drogue et donner une forme de prime aux personnes racisées qui avaient été incarcérées pour des infractions liées au cannabis, en leur proposant des licences de vente au détail en priorité, avant les grandes entreprises du secteur du cannabis. Donc ça, ça a été très nouveau, cette motivation d'équité sociale, comme ils disent, avec des programmes de discrimination positive à l'égard de ceux qui étaient considérés comme des trafiquants encore quelques années auparavant.
D'autres arguments ont pesé. Dans le Colorado, par exemple, il y avait eu un premier référendum où à 59%, je crois, les votants avaient rejeté la légalisation du cannabis. Donc, un peu plus tard, en 2012, quand un nouveau référendum a lieu et que cette fois-ci, le oui l'emporte, le Colorado, vous le racontez dans vos travaux, est pris de court. Qu'est-ce qui a fait basculer l'opinion dans cet état? A priori, c'est plutôt des questions de santé, voire de santé des enfants. Une affaire avait fait grand bruit à ce moment-là. On l'avait appelé le drame de Charlotte.
Oui, c'est ça. Alors, le drame de Charlotte, c'est une enfant atteinte d'une forme très rare d'épilepsie, qui n'était soignée et guérie par aucun remède, qui ne trouvait un peu de soulagement qu'à travers la consommation de cannabis médical. Mais son accès au cannabis médical était limité, et surtout les variétés qui lui convenaient n'étaient pas forcément accessibles sur le marché du Colorado. Donc voilà, c'est une affaire qui a beaucoup ému l'opinion publique, et qui contribue à expliquer, c'est pas le seul facteur évidemment. Il y a eu aussi une campagne d'opinion très structurée avec des avocats d'affaires qui s'en sont mêlés, des organisations militantes qui ont été très présentes au Colorado. Donc c'est toujours finalement un faisceau, une constellation d'acteurs qui s'agrègent et qui créent une coalition pour pousser cette cause de la légalisation du cannabis.
Entre parenthèses, oui, les avocats et tous ceux qui travaillent dans le domaine du droit et qui se sont impliqués pour la légalisation du cannabis, ils voient aussi certainement une bonne affaire à faire, puisque on rappelle qu'à l'échelon fédéral, le cannabis reste illégal, donc ça crée des contentieux avec les États fédérés. C'est quand même intéressant aussi pour les métiers de la justice. On en parlera. En tout cas, les enfants qui pourraient avoir accès à des traitements pauvres en THC, mais riches en CBD, qui sont ces traitements qui ont soulagé apparemment cette petite fille Charlotte, ont inspiré d'autres parents qui aujourd'hui emmènent leurs enfants dans le Colorado.
Nous venons d'une petite ville du Texas appelée Canyon, située juste au sud d'Amarillo. Nous avons déménagé au Colorado pour avoir accès au cannabis médical pour notre fille Gilly, qui souffre d'épilepsie et de paralysie cérébrale quadriplégique. Les personnes atteintes de cette pathologie ne font pas toutes des crises, mais elle, si. Au Texas, elle devait prendre 3 ou 4 médicaments différents tous les jours, sans que le rythme de ses crises ne ralentisse. Ça la rendait simplement plus léthargique, et elle continuait à avoir entre 40 et 50 crises par jour. Quand vous êtes parent, c'est insupportable. Nous cherchions quelque chose d'autre pour l'aider depuis des années. Un ami m'a envoyé un article sur le cannabis thérapeutique et j'ai fait quelques recherches. Quand nous avons rencontré des gens qui ont recouru au cannabis pour leurs enfants et ont eu des résultats super probants, j'ai été tout de suite convaincue. Bien sûr, ce n'était pas légal au Texas. Alors, nous savions qu'il fallait que nous déménagions pour pouvoir y accéder légalement.
Alors, il faut bien préciser, Ivana Obradovic, que quand on parle de cannabis médical, les traitements dans les États qui l'ont légalisé sont ouverts à tous. Le cannabis dit récréatif, lui, non médical, n'est destiné qu'aux adultes. On parlera de toutes les normes et restrictions qui ont été posées par ces États au fur et à mesure. Si on regarde la cartographie du vote lors de ces référendums pour la légalisation du cannabis récréatif, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui vote pour en général ?
Alors, en général, cette légalisation, elle intervient dans des États avec des profils assez particuliers, au départ en tout cas, qui sont des États démocrates, avec souvent une tradition de réforme en matière de mœurs, par exemple. Ça a été parmi les premiers États qui ont légalisé le mariage homosexuel, par exemple, avant l'injonction de la Cour suprême en 2015. C'est des États qui, plus anciennement, ont été parmi les premiers à accorder le droit de vote aux femmes. Donc une tradition de libéralisme au sens américain du terme et d'ouverture. C'est aussi des États où le facteur religieux est relativement peu important par rapport à d'autres, c'est-à-dire que la part de ceux qui se déclarent croyants est inférieure à ceux des autres États. Mais justement, au fil profil des nouvelles initiatives de légalisation, le profil des États réformateurs s'est pas mal diversifié. Et donc, on a aujourd'hui pas seulement des États démocrates, aussi des États républicains qui légalisent. Les voies de réforme ont aussi pas mal évolué. Au départ, c'était par référendum. Maintenant, c'est aussi par la voie législative, par le biais des législatures d'État. Donc, il y a une diversification à la fois des processus de réforme et aussi des modèles de régulation. Et évidemment, le seuil d'acceptabilité a aussi évolué, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle initiative de légalisation, ça s'inscrit dans le paysage et ça devient normalisé. C'est intéressant quand même de préciser que c'est une dynamique qui a été très forte pendant 10 ans, entre 2012 et 2023, en gros, où il y a eu une accélération, même à partir de 2018, où on avait au moins un nouvel État qui légalisait chaque année. Et depuis 2024, il y a eu un coup d'arrêt du fait de la campagne présidentielle américaine et la focalisation sur d'autres sujets. Et l'administration Trump, actuellement, est assez divisée sur le sujet. Donc ça n'avance pas beaucoup, malgré les déclarations de Biden, qui avait promis de reclasser le cannabis de la classe des drogues les plus dangereuses vers la classe des drogues les moins dangereuses, où on considère qu'il peut y avoir un intérêt médical et un potentiel d'abus qui est plus limité que l'héroïne ou la cocaïne, par exemple.
Voilà, sortir le cannabis de la catégorie 1 des substances considérées comme très addictives avec le LSD et l'ecstasy et qui doit passer, mais comme vous dites, tout ça est encore très incertain, en catégorie 3, au même rang que certains médicaments à la codéine, par exemple. S'il y a aujourd'hui des réticences, c'est aussi parce que dans certains États, ça ne s'est pas très bien passé, surtout pour des États qui ont plutôt légalisé le cannabis médical. Dans l'Oklahoma, par exemple, État très conservateur qui a voté en 2018 la légalisation du cannabis médical, on s'est aperçu que faute de critères de santé précis pour y avoir accès, plus de 400 000 personnes aujourd'hui détiennent une carte qui leur permet d'en acheter, donc un habitant sur 10. Par ailleurs, le prix de la licence pour produire et vendre a été fixé dans cet état à 2 500 $, en lieu et place des 100 000 $ exigés pour l'Arkansas, par exemple. Donc il y a, en fonction des états, des normes et des obligations très très différentes. Et notamment pour produire, il faut une licence de toute façon.
Alors, c'est justement le principe de cette légalisation. Le pari, c'était de réguler le cannabis, donc d'avoir un contrôle de l'ensemble de la chaîne, de la production jusqu'à la vente. Ça passe effectivement par des licences professionnelles et par des règles d'encadrement sur la publicité, le marketing, les produits qui sont mis en vente. Sachant qu'aux États-Unis, cet encadrement, il est beaucoup moins restrictif qu'en Uruguay, par exemple, qu'au Canada également.
On parle de l'Uruguay demain, d'ailleurs, dans la série.
Voilà, donc les règles de publicité sont souvent détournées. C'est ce qu'on montre dans notre rapport sur les 3 états de la côte ouest.
Par exemple, comment on peut détourner la publicité ?
Alors, on a des panneaux publicitaires en bord de route, par exemple, qui évoquent le cannabis. Alors, sans montrer des images qui sera incitative pour des mineurs, par exemple. C'est interdit de montrer des figures de dessins animés qui prendraient du cannabis, par exemple. Mais malgré tout, il y a une forte présence de ces panneaux publicitaires en bord de route qui sont forcément une incitation à la consommation. De la même manière, le marketing est relativement peu réglementé. Mmh. C'est-à-dire qu'on trouve du cannabis sous toutes ses formes, avec un packaging souvent très attractif, des couleurs pastel, et des petits personnages amusants qui jouent toujours sur cette limite et sur la frontière floue entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit.
Alors que l'âge légal pour consommer reste 21 ans comme pour l'alcool, que la consommation est autorisée en privé mais pas dans les lieux publics, que conduire après avoir consommé est prohibé au-delà d'un certain seuil de présence de cannabis dans l'organisme, donc il y a quand même des normes qui sont instaurées dans tous les sens pour se protéger, pour protéger la santé des plus jeunes et des consommateurs. Du côté de l'offre, on autorise par ailleurs l'autoproduction et les ganja-preneurs s'en sont régalés. La ruée vers l'or vert, c'est comme ça qu'on appelle Yoni Ophir, par exemple, les ganja-preneurs venus d'Israël pour s'installer au Colorado. Et il a fondé une entreprise qui propose des petites serres pour particuliers.
Voici notre premier prototype de mini-serre pour plants de cannabis. Vous voyez, il y a encore beaucoup de fils apparents, mais tout fonctionne. Vous pourriez être à 10 000 km de l'appareil, tant que vous avez le Wi-Fi, vous gardez la main dessus. Maintenant, essayons la lumière.
Ah oui, c'est un vrai vaisseau spatial. Vous avez construit un nouveau spaceship. Quelle quantité d'herbe pouvez-vous produire dans cette mini-serre ?
À peu près 120 grammes à chaque récolte. À raison de 4 récoltes par an, ça devrait nous permettre de passer l'hiver.
Encore un extrait du reportage du média Vice. Alors, hormis le cannabis que les particuliers peuvent faire pousser dans des serres individuelles, Ivana Obradovic, à quoi ressemble la production industrielle de cannabis ?
Alors, effectivement, ça, c'est un des effets les plus spectaculaires de la légalisation, ce boom économique et ce rapide investissement par des acteurs privés de ce champ avec une industrialisation et des procédures de production qui sont extrêmement efficaces. Ça ressemble à des hectares, des dizaines d'hectares de cannabis cultivés sous serre à l'abri des regards.
Avec
des effets environnementaux dont on commence à parler un petit peu, notamment sur l'usage de pesticides, puisque comme le cannabis reste interdit au niveau fédéral, la FDA n'a pas compétence pour contrôler la production de cannabis et l'usage de pesticides. Donc ça, c'est un des facteurs environnementaux qui pèse et qui alimente maintenant le débat public. Il y a aussi la consommation en eau et en électricité qui est un facteur aussi environnemental important, puisque la culture de cannabis est très gourmande en eau et que toutes les infrastructures et les équipements techniques utilisent pas mal d'électricité, de ventilation, etc. Donc voilà, ça c'est un des sujets qui ressort le plus. Mais alors effectivement, il y a une concentration industrielle qui est en train de se jouer sur ce secteur-là.
Oui, on peut donner une image, par exemple, d'une usine qui produit industriellement donc du cannabis, l'usine de Sichua Industries qui, en un an l'année dernière, a produit plus de 18 tonnes d'herbe. C'est la revue Challenge qui est allée voir comment ça se passait dans donc cette usine où la température, la lumière, l'humidité sont réglées automatiquement et on voit que lors de la récolte, des batteuses chauffent une partie du produit pour en extraire le THC pur. Ensuite, ce cannabis produit sera vendu dans des boutiques spécialisées qui devaient être limitées, mais dans vos travaux, Ivana Obradovic, on voit que, par exemple, dans le Colorado, dès les premiers mois de la légalisation, le nombre de boutiques a dépassé le nombre de Starbucks ou de McDonald's. Donc, en fait, finalement, il y a un effet très limité de la limitation officielle du nombre de boutiques et des taxes prélevées sur ce produit-là. Et c'était un argument massu de tous ceux qui ont défendu la légalisation aux États-Unis. C'était les recettes fiscales pour les États fédérés avec des calculs astronomiques de bénéfices fiscaux potentiels à Washington, par exemple, dans l'État de Washington, on parlait de 216 millions de dollars par an au Colorado, dans l'État de Washington et 50 millions pour le Colorado, avec une question quand même sous forme de dilemme pour les États, comment se réjouir d'augmenter les recettes et comment tout faire pour augmenter les recettes sans inciter à la consommation.
Alors justement, cette incitation à la consommation, elle existe, puisque les opérateurs économiques étant ce qu'ils sont, ils ont tout intérêt à élargir leur clientèle. Et donc c'est précisément le jeu qui joue à travers la publicité, le marketing et une offre de produits dérivés du cannabis qui s'est considérablement élargie. C'est-à-dire que c'est plus seulement de l'herbe ou du cannabis fumé, c'est aussi du cannabis qui se mange, qui se boit sous forme de soda, éventuellement aussi dans des bières infusées au THC, qui est le principe actif du cannabis, des produits qui se vapotent, qui se vaporisent, et aussi un nouveau mode de consommation particulièrement dangereux pour la santé qui s'appelle le dabbing, qui consiste à fumer le cannabis un peu à la manière de l'opium. Et notamment une forme de cannabis qu'on appelle les concentrés, qui peuvent aller jusqu'à 90% de THC. Donc avec un risque d'intoxication aiguë et de conséquences sanitaires à plus long terme, qui est encore assez mal évalué.
Donc la légalisation du cannabis a ouvert la voie à de multiples produits, modes de consommation et des produits dérivés du cannabis.
Hi guys. Salut les gars, comment ça va ?
Good, how are you doing ?
Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui ?
On fait des rouleaux au chocolat dosés à 25 mg.
25 mg de THC ? Cool. Ils sont très efficaces et très discrets. Donc on peut les emporter au boulot si on a une douleur quelque part. Les gens les utilisent aussi pour les courbatures après le ski ou bien en boîte de nuit au lieu de consommer de l'alcool.
C'est la directrice marketing d'une entreprise qui s'appelle Dixie Elixir, extrait d'un reportage de l'effet papillon en 2013 déjà. Il faut nous expliquer, Dixie Elixir fait partie, comme de très nombreuses entreprises, de boîtes qui ont pris de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. Il faut nous expliquer comment ils ont pu réussir à prendre autant de place, alors qu'au départ, il y avait la volonté de privilégier plutôt les petites entreprises, les petits entrepreneurs, les petits producteurs.
Alors, effectivement, ça a été une croissance très rapide et un mouvement de concentration industrielle, on peut le dire, pendant 10 ans. Mais là, depuis quelques années, depuis 2021-22, après le Covid finalement, on a un recul du marché, un recul des ventes d'abord, et vraiment une crise dans le secteur légal du cannabis. Par exemple, il y a une grande entreprise en Californie qui a fait faillite récemment, qui était un organisme de distribution, puisque le régime de régulation en Californie prévoit qu'il y ait des distributeurs agréés qui conventionnent avec les grandes marques qui produisent du cannabis. Et donc ce système est assez complexe, bureaucratiquement, mais aussi dans la pratique, avec des transactions financières dans tous les sens. En chaîne, il y a eu différentes faillites à partir de cet événement-là, qui n'est pas du tout un événement isolé. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment, qui font faillite, du fait de la concurrence avec le secteur illicite. Parce que ça, c'est un des principaux effets, c'est que pendant 10 ans, il y a eu une forme de lune de miel pour les acteurs du cannabis, les acteurs économiques, mais ils sont de plus en plus concurrencés par les vendeurs illégaux.
Expliquer qu'il y a encore des vendeurs illégaux dans des États qui ont légalisé ? C'est difficile à comprendre.
Alors, c'est difficile à comprendre, mais c'est pourtant vraiment une dynamique forte. On appelle ça le phénomène d'inversion aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une partie du cannabis qui est légalement produit, qui dépasse largement la demande, n'achalande pas forcément les boutiques agréées, mais achalandent des boutiques qui ont pignon sur rue, mais qui sont illégales. C'est un peu le paradoxe de la légalisation. Et notamment en Californie, on a eu un boom du marché noir depuis la légalisation, précisément, avec une concurrence avec le secteur illégal et des homicides, des règlements de compte entre trafiquants en Californie, en particulier dans le triangle d'Émeraude, qui ont été exacerbés depuis la légalisation.
Dans le Colorado, le cartel de Sinaloa, par exemple, est présent aussi dans le trafic de cannabis au Mexique. On sait qu'il est par ailleurs très impliqué dans le trafic de drogue beaucoup plus dure. Dans les grandes villes comme Denver ou Colorado Springs, par exemple, ce cartel est présent. Mais alors, est-ce que ce sont à chaque fois des gangs, des cartels qui opèrent ce marché noir du cannabis qui, aujourd'hui, en profite ?
Alors, c'est des cartels, mais ça peut être aussi des plus petits opérateurs qui travaillent pour ces cartels. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que la légalisation a créé une espèce de surenchère pour la baisse des prix. Or, le marché illicite, d'une certaine manière, est plus fort et moins réglementairement contrôlé, par définition. Donc, ça lui permet de proposer des prix du cannabis beaucoup plus bas. Et c'est ce qui affecte la rentabilité des entreprises légales aujourd'hui, qui sont vraiment en difficulté. Ce qui amène, par exemple, la Californie, la semaine dernière, à voter un gel des hausses de taxes sur les entreprises légales du cannabis pour, entre guillemets, protéger le secteur économique légal du cannabis.
Et c'est pour ça que le marché noir trouve toujours preneur, trouve toujours des consommateurs qui préfèrent aller acheter de l'herbe moins chère, même s'ils prennent un risque, puisque donc c'est illégal, qu'il n'y a pas de licence distribuée, plutôt que d'en acheter sur le marché légal beaucoup plus cher ?
Exactement, en particulier les segments les moins aisés de la population, qui ont plutôt intérêt à rester sur le marché noir, pour des raisons économiques, parce que le cannabis qui est importé du Mexique, par exemple, illégalement, est beaucoup, beaucoup moins cher à la consommation. C'est moins de 5 dollars le gramme. Sur le marché légal, on est entre 10 et 20 dollars le gramme, selon les produits.
Là, vous nous parlez de cannabis qui vient du Mexique, mais vous nous parliez tout à l'heure aussi de surproduction de la part des États qui ont légalisé. Donc, quelle herbe, en fait, se retrouve sur le marché noir? C'est un mélange des deux?
Oui, c'est un mélange des deux, tout à fait. Sachant que, là encore, le maintien de l'interdit fédéral crée un paradoxe qui est que les marchés légaux du cannabis sont emprisonnés entre les frontières de chaque État qui a légalisé. Mais les frontières entre les États sont sous contrôle fédéral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer du cannabis produit légalement en Californie vers un autre État, même un État qui aurait légalisé le cannabis, comme le Maine ou le Massachusetts, par exemple. Sauf que c'est un phénomène qui existe et que, voilà, précisément, il y a un détournement du cannabis légalement produit vers les États du Nord-Est qui recherchent des variétés de cannabis californien, par exemple.
Donc, dans le cas états-unien, et il ne s'agit pas là de dire que ça se passe partout comme ça dans les États qui ont légalisé, mais dans le cas états-unien et avec les choix qui ont été faits en matière de légalisation, ce marché légal a l'air de plutôt stimuler le marché illégal plutôt que de l'assécher, vraiment.
Alors, tout dépend des États, mais particulièrement en Californie, c'est vraiment la situation à laquelle on assiste là depuis quelques années.
Et dans les États qui ont légalisé le cannabis, est-ce qu'on constate au moins une baisse, enfin une consommation moindre des drogues de synthèse, du fentanyl dont on parle depuis quelques années aux États-Unis, qui détruit non seulement des vies entières, mais des quartiers, des villes entières? Est-ce qu'on voit une corrélation légalisation du cannabis, consommation moindre de substances beaucoup plus dures et néfastes?
Alors, c'était un des arguments des partisans de la réforme, justement, de dire, pour lutter contre cette épidémie d'opioïdes qui fait rage aux États-Unis, hein, je rappelle, 100 000 morts par an, on va légaliser le cannabis et permettre un accès à des produits qui permettent de lutter contre la douleur autrement que par des antalgiques opioïdes. C'est pas tout à fait ce qu'on voit, hein, puisque l'épidémie des opioïdes, elle traverse vraiment tous les États-Unis. Elle est présente dans tous les États, même si au départ, il y a une surreprésentation dans les États désindustrialisés de la Rust Belt, plutôt vers le Midwest des États-Unis. Maintenant, c'est vraiment dans tous les États que cette épidémie de fentanyl est redoutable. En Californie, par exemple, on prend toujours l'exemple de San Francisco et le centre-ville de San Francisco qui est complètement méconnaissable, voilà, avec des scènes de consommation, de scènes ouvertes de consommation et des rues entières, des blocs qui sont complètement... complètement envahis par des consommateurs qui sont aussi souvent sans domicile fixe et donc qui campent littéralement dans une partie du centre-ville de San Francisco.
Et est-ce que le cannabis en tant que tel, est-ce que la légalisation a eu quelque incidence sur le nombre de consommateurs de cannabis tout court?
Alors, il y a eu une très forte incidence. Alors, ce qui est sûr, là, on a 10 ans de recul par rapport aux premières initiatives. Il y a une hausse de la consommation de cannabis chez les adultes. Ça, c'est un résultat absolument irréfutable. Une hausse plus ou moins rapide suivant les tranches d'âge, mais qui concerne en particulier les plus de 25 ans. Dans l'État de Washington, par exemple, il y a un quart de consommateurs de plus aujourd'hui qu'avant la légalisation. Donc on voit que c'est une dynamique qui est très forte. En revanche, la consommation n'a pas augmenté chez les mineurs. Ça, c'est important de le préciser. Alors, sans que ça soit pour autant un effet de la légalisation à proprement parler, puisque cette consommation chez les mineurs, elle était déjà en baisse avant les réformes. Mais en tout cas, ça n'accroît pas la consommation des mineurs. Et même, on peut voir que l'accessibilité perçue du cannabis chez les mineurs est plutôt en baisse. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est plus difficile d'acheter du cannabis aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
La consommation de tabac, en revanche, a baissé dans les États qui ont légalisé, comme s'il y avait une corrélation entre hausse de consommation de cannabis et celle du tabac, comme s'il y avait un transfert, en fait, que les personnes arrêtaient la cigarette pour se mettre au cannabis. C'est difficile, bien sûr, dans le détail, de savoir exactement ce qui se passe dans les attitudes, les modes de consommation. Peut-être un mot sur quand des policiers font une descente, puisque finalement, les populations les plus défavorisées, comme vous dites, continuent à avoir recours au marché noir, parce que le cannabis y est beaucoup moins cher, donc les problèmes sociaux et d'inégalités sociales n'ont pas diminué. Quand des policiers font une prise, comment est-ce qu'ils font la distinction entre du cannabis produit légalement et distribué légalement et l'autre? Enfin, il y a un système de traçage aussi de l'herbe?
Alors, ça dépend des États. Normalement, oui, il y a un système de traçage de la graine au consommateur. C'est le seed to sale système qui a été mis en place, mais pas dans tous les États. En Californie, par exemple, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a l'idée de pouvoir, à travers une analyse en laboratoire toxicologique, déterminer la provenance du cannabis. Bah, c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a pu voir que dans certains États du nord-est des États-Unis, c'était du cannabis qui provenait de Californie, puisqu'on retrouvait dans les analyses toxicologiques les pesticides et la nature des sols californiens.
Ou en Californie, des petits producteurs continuent à essayer de se battre contre les grands groupes de cannabis pour produire le cannabis qu'ils estiment être le meilleur. On en parle de ce triangle d'or juste après cette musique Smoke Two Joints du groupe The Troys. Joints interprété ici par The Troys en 1996, bande originale du film L'héritage de Malcolm, où on suit trois amis, Jack, Arthur et Harlan, petits cultivateurs de cannabis dans le triangle d'émeraude et non pas d'or en Californie, qui se retrouvent au cœur d'une guerre de gangs après le meurtre de leur boss Malcolm. C'est dans le triangle d'émeraude que se poursuit ce premier épisode de notre série sur le cannabis, les voies de la légalisation. Dans ce bout de terre de Californie, les petits producteurs historiques se voient mis en concurrence avec les nouveaux géants du secteur.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous sommes à 200 km au nord de San Francisco, dans une région qui concentre une grande partie de la production californienne de cannabis, une production longtemps assurée par de petits exploitants en quête de retour à la terre, dans l'esprit des hippies des années 70, et qui vivent aujourd'hui la légalisation comme une mise en concurrence avec des entreprises capitalistes à mille lieues de leurs valeurs. Barthélémy Gaillard de l'équipe de Culture Monde a interrogé à ce sujet le chercheur Paolo Stupia.
Bonjour Paolo Stupia.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESSP. Vous avez mené une enquête de terrain auprès des habitants du Triangle d'Émeraude, qui est donc cette région située au nord de la baie de San Francisco, où se concentre une partie de la production du cannabis californien. Tout d'abord, à quoi ressemblent les paysages de cette région et pourquoi les habitants se sont-ils lancés dans la culture de cannabis ?
Oui, en fait, ces trois comtés qui sont au nord de la baie de San Francisco ressemblent beaucoup à des endroits avec des montagnes, des collines assez escarpées, des routes sinueuses et des forêts majestueuses de Redwood, qui sont donc ces séquoias géants. Et c'est un très très peu peuplé où l'habitat, comme vous le dites, est extrêmement dispersé. Du coup, on a eu un lieu idéal pour l'installation de néo-ruraux dans les années 1970. Et ces néo-ruraux étaient issus des mouvements politiques et culturels de l'époque. Le cannabis n'était pas leur principale production. C'était quelque chose d'assez marginal, mais c'est devenu central. Ça a été une ressource économique première de la région. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, la région, c'est l'un des principaux pôles de production de Californie. Et elle est mondialement reconnue, d'ailleurs, pour la qualité des semences et aussi des fleurs. C'est là où se déroule, d'ailleurs, une coupe qui s'appelle l'Emerald Cup, qui regroupe les meilleurs cultivateurs de la région et de la planète.
Et alors, pendant des décennies, le cannabis était évidemment illégal en Californie. Durant toute cette période où ces néo-ruraux ont commencé à cultiver le cannabis, quelles relations ont-ils entretenu avec la police, la justice et plus largement l'autorité de l'État ?
On ne pourrait pas comprendre l'histoire de cette région sans citer la guerre à la drogue lancée par Nixon dans les années 1970. Et dans cette guerre à la drogue, on a un tournant en 1976, puisque effectivement la plupart du cannabis aux États-Unis était importé illégalement du Mexique. Or, en 1976, le gouvernement américain paye le gouvernement mexicain pour épandre des pesticides toxiques sur les cultures au Mexique, ce qui provoque une pénurie. Et du coup, la production se recentre sur des cultures locales. Et dans ce contexte, on peut voir de plus en plus de gens qui rejoignent les petits cultivateurs hippies au nord de la Californie. Alors, et il faut préciser que pour eux, au tout début, le cannabis n'était vraiment pas une ressource économique, c'était plutôt une plante sacrée. Mais petit à petit, avec l'envolée des prés, si vous voulez, c'est devenu une ressource centrale. Ce petit cultivateur hippie ont été rejoints par ailleurs par des vétérans du Vietnam qui ont commencé à cultiver de l'herbe pour en faire une ressource économique, mais aussi comme une thérapie, comme un refuge. Et petit à petit, cela a donné lieu à, si vous voulez, des alliances de terrain contre la répression qui s'est intensifiée dans la région. Alors, on a lancé une campagne en 1983 pour éradiquer la plantation de marijuana aux États-Unis, CAMP. Et ça a été la campagne la plus importante, l'opération de police la plus importante qui a été jamais lancée sur le territoire. Malgré cela, un rapport de 1985 estimait que seuls 20% des plantes étaient saisies, et ce malgré des moyens colossaux à l'aide d'hélicoptères, de descentes musclées, de lance-flammes. Et si vous voulez, cela a ravivé des traumatismes dans les vétérans du Vietnam de la guerre, mais aussi elle a ressoudé ces communautés locales de petits cultivateurs qui se sont unis face à la militarisation du territoire, si vous voulez.
Et justement, après cette longue période de poursuite policière des cannabiculteurs de la région, on pourrait se dire que les deux phases de la légalisation du cannabis en Californie, donc d'abord à usage médical en 1996, puis à usage récréatif, voté en 2016, entré en vigueur en 2018, auraient pu être bien accueillies par la population, au sens où ça leur permettait d'échapper à toutes ces poursuites de la part de la police et de la justice. Et pourtant, visiblement, ils ont plutôt mal vécu cette légalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
En 96, ça a été plutôt bien vécu sur place, puisque on a permis une cultivation légale à condition d'être reconnu comme patient. Et du coup, très vite, dans le triangle d'Émeraude, on a multiplié les licences. On a assisté à ce qu'on a appelé le Green Rush, en référence à la course à l'or des années du 19e siècle, en fait. C'est une période d'intense développement économique, mais qui n'est pas exempte de critiques. C'est une période d'intense développement économique. Pourquoi ? Puisque le prix du foncier s'est envolé. On a assisté d'ailleurs à l'arrivée de jeunes venus du monde entier pour faire les saisons dans le cannabis, pour couper le cannabis, ce qu'on a appelé les « trimigrants ». Et du coup, on a eu, si vous voulez, une période d'intense développement de la région, avec de l'ouverture de bars, de motels, de restaurants, tout un écosystème qui s'est monté. Mais les premiers cultivateurs, ceux des années 70-80, qui avaient participé à ces luttes contre la militarisation du territoire, justement, ont critiqué cette course un petit peu au profit de la fin des années 1990 jusqu'en 2016. Et puis, en 2018, si vous voulez, en 2016-2018, on rencontre un petit peu un phénomène qui est celui de critique très forte au sein de cette région de la légalisation récréative cette fois-ci. Pourquoi ? Puisque on craint une concurrence accrue avec des grandes entreprises et une baisse significative des prix. Ce qui se produit d'ailleurs inévitablement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour devenir producteur de cannabis en Californie, il y a un système assez kafkaïen de réglementation et de règles, si vous voulez, qui font que on doit embaucher, par exemple, un archéologue pour fouiller le terrain. On doit mettre beaucoup de moyens pour payer des taxes, payer des régulations. Et voilà, tout cela provoque le fait qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui se confrontent à avoir toute une économie, tout un budget à prévoir avant même de se lancer dans la production. Et du coup, cela, ça provoque des remous sur les régulations. Et la concurrence de grandes multinationales qui investissent aussi dans le cannabis, et notamment dans la vallée centrale, dans le sud de l'État, va provoquer effectivement une chute des prix. Et donc, du coup, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une situation qui est un petit peu l'inverse du Green Rush des années 1990 jusqu'à 2016, si vous voulez. Là, on a vraiment des fermetures de tout cet écosystème. Il y a tous ces jeunes qui venaient d'Europe, du monde entier, pour travailler dans ces fermes qui, aujourd'hui, ont pratiquement disparu. Et la région connaît une très forte crise dû à la concurrence de ces grandes fermes, mais aussi on assiste vraiment à une crise dans les producteurs eux-mêmes. Alors il y a quelques tentatives de se relancer, notamment par la mise en place d'appellations comme pour le vin ou des labels comme bio ou grandi au soleil. Ou encore, je peux penser au développement de marchés, de petits marchés locaux, comme des petits marchés de producteurs alimentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on assiste à une véritable crise de la production dans le triangle monde.
Dernière question à ce sujet, c'est justement s'il y a tant de difficultés pour des cannabiculteurs traditionnels, descendants, fils ou petits-fils de cette génération de hippies partis s'installer là-bas dans les années 70, à pouvoir gagner dignement sa vie en vendant du cannabis sur les circuits légaux, sont-ils parfois tentés de prolonger leurs relations avec des trafiquants de cannabis et donc à prolonger leurs activités dans le marché noir du cannabis ?
Simplement, aujourd'hui, le fait de se lancer sur le marché illégal de Californie implique faire face à des prix extrêmement bas. Si vous voulez, on est sur le marché illégal et légal parfois, à des prix qui frôlent les 300 dollars le kilo, ce qui, si vous voulez, c'est vraiment 5 fois moins que le plus bas où on assistait avant la légalisation récréative. Donc, si vous voulez, ça ne vaut plus vraiment le coup. Beaucoup déplorent aujourd'hui, justement, un paradis perdu, une perte de cohésion interne de leur communauté locale. Et on assiste, par exemple, à des reconversions. Je pense à quelques fermes qui ont fermé boutique, si vous voulez, sur le côté cannabis et essayent de se réinventer un centre de méditation, centre de yoga, en tout cas sur quelque chose qui est un petit plus dans la ligne de l'esprit des premiers néo-ruraux qui s'étaient installés dans les années 1970 dans la région.
Merci Paolo Stupia. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'Institut catholique de Paris et donc chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESSP.
Paolo Stupia, interrogé par Barthélémy Gaillard. Merci beaucoup Ivana Obradovic d'avoir été avec nous dans Culture Monde pour ce premier épisode de notre série Les voies de la légalisation. Vous avez coordonné une recherche sur ce que donne ou sur les effets de la légalisation du cannabis en Amérique du Nord avec une dizaine de publications sur le site de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, dont vous êtes directrice adjointe. Nous mettons le lien de ces travaux sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Après une quatrième nuit de frappe israélienne sur l'Iran, Catherine, et la riposte de Téhéran avec des missiles, une question, Israël va-t-il neutraliser complètement le programme nucléaire iranien ?
Israël a porté un coup puissant à certaines parties de ce programme nucléaire, mais ce n'est pas encore un chaos, titre le Wall Street Journal, car l'armée israélienne n'a pas encore détruit les sites nucléaires les plus protégés du pays, laissant à Téhéran une voie potentielle vers la bombe atomique. Si le ministre iranien des Affaires étrangères admet que les frappes les plus importantes ont touché le site nucléaire de Natanz, dans le centre de l'Iran, rapporte l'IRNA, l'agence de presse d'État, à Téhéran, la principale installation de ce site d'enrichissement d'uranium a été détruite, s'est félicité de son côté hier Benjamin Netanyahou lors d'un entretien télévisé sur Fox News aux États-Unis. Une panne de courant pourrait avoir causé de graves dommages sur les 14 000 centrifugeuses souterraines qui tournent pour produire de l'uranium, des centrifugeuses aussi nombreuses que fragiles, souligne le Wall Street Journal. La partie souterraine du site de Natanz pourrait avoir implosé, selon un responsable israélien cité par le quotidien économique américain. Israël a également frappé des maillons clés de la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication d'une bombe en détruisant des bâtiments indispensables à la construction d'une arme nucléaire à Ispahan notamment, ajoute le Wall Street Journal, Iran International et l'agence officielle turque Anadolu. Au moins 10 scientifiques iraniens spécialistes du nucléaire ont également été tués, mais le plus grand défi d'Israël reste de détruire Fordo, estime le Financial Times et le Wall Street Journal, la plus puissante installation nucléaire iranienne où Téhéran produit de l'uranium hautement enrichi. Elle se niche au cœur d'une montagne près de la ville de Qom, sainte pour les chiites. Fordo se trouve à 160 km au sud-ouest de Téhéran, précise Israël Ayom et le Washington Post.
Et cette usine d'enrichissement est enfouie à 500 mètres sous terre.
Et c'est le test ultime de la puissance aérienne d'Israël, estime le Financial Times. Fordo, un peu comparable à la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux, poursuit le quotidien britannique, est étroitement surveillé, protégé par des batteries anti-aériennes. Le site symbolise la volonté de l'Iran de préserver son programme nucléaire, conçu pour résister aux frappes aériennes classiques, pourrait-on dire, avec suffisamment de centrifugeuses et d'uranium hautement enrichi intact pour produire donc potentiellement une arme nucléaire. Fordo pourrait convertir la totalité du stock iranien d'uranium hautement enrichi, évalué à plus de 400 kilos par les inspecteurs de l'AIEA en mai, indique le Financial Times. De quoi produire en seulement 3 semaines suffisamment d'uranium de qualité militaire pour fabriquer 9 armes nucléaires. Les installations de Fordo sont enfermées dans du béton armé, hors de portée de toutes les armes d'Israël connues du public, poursuit le Financial Times. C'est aussi un symbole de l'anxiété stratégique de l'Iran. Le site a d'ailleurs été visé par Israël ce week-end, rapporte l'agence de presse iranienne ISNA. Et de fortes explosions ont été observées cette nuit à proximité de Fordo, indiquent le Times of Israel et Iran International, alors qu'I24 News évoque un tremblement de terre. Une chose est sûre pour le Wall Street Journal, les installations de Fordo ne pourraient être détruites qu'avec une bombe anti-bunker américaine de taille massive.
Et Benjamin Netanyahou l'a-t-il demandé à Donald Trump ?
La question a été posée hier par un journaliste de Fox News. Voici la réponse du Premier ministre israélien.
I'm not going to get into my discussions with the president, but understand that his decisions are his decisions.
Je ne vais pas entrer dans mes discussions avec le président des États-Unis. Ses décisions lui appartiennent, a déclaré Benjamin Netanyahou hier sur Fox News. Mais nous avons démontré, comment dire, que nous sommes la nation de l'innovation, des start-up, et nous avons encore de nombreux atouts dans notre manche. Je n'en parlerai pas, car la surprise est un élément important de la réussite militaire, a souligné le premier ministre israélien, revenant aussi sur le coup dur porté au Hezbollah au Liban, qui a brisé l'un des axes iraniens. Nous sommes donc prêts à faire tout ce qui est nécessaire, a également prévenu sur Fox News Benjamin Netanyahou hier, pour éliminer, dit-il, 2 menaces existentielles pour Israël, la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques. Certains experts craignent que ces frappes d'Israël sur les sites nucléaires en Iran, les sites militaires également et les réserves de pétrole de Téhéran, n'incitent l'Iran à se lancer dans une tentative secrète de fabrication fabriquer une bombe atomique, rapporte le Financial Times et le Washington Post. La guerre avec l'Iran coûte à Israël près $1 milliard par jour, estime un ancien responsable de la défense israélienne, cité par le quotidien Ma'ariv. En attendant, comme le montre un autre journal en Israël, Yediot Aharonot, ainsi que Iran International, les civils israéliens et iraniens tentent, eux, d'échapper aux frappes aériennes en se réfugiant dans des abris ou en quittant, pour les Iraniens qui le peuvent, la capitale Téhéran. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, sur cette chronique, je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.